Bonjour Anaë, je suis actuellement avec les trois comédiens de la compagnie Mont et Merveille. Ils sont aujourd'hui présents mardi 28 février au collège pour nous donner des représentations de la pièce Antigone d'Anouilh, pièce sur l'arbitraire à laquelle assistent tous les troisièmes. Bonjour, pouvez-vous tout d'abord vous présenter ?
Bonjour, Olivier Brun et j'interprète le rôle de Créon.
Bonjour, Sarah Ulysse et j'interprète le rôle d'Antigone.
Bonjour, Valentine Chaumette, j'interprète le rôle d'Ismène et le rôle du garde.
Comme j'aimerais bien devenir doubleuse de film et comédienne, pourriez-vous me dire comment fait-on pour devenir comédienne ?
Alors, il y a plusieurs parcours différents. Vous pouvez faire des écoles publiques, il y a des conservatoires municipaux, des conservatoires régionaux et il y a des écoles nationales sur concours, sur audition. C'est très difficile d'accès sur les écoles nationales parce qu'il y a beaucoup de gens qui essayent de rentrer dedans et très peu qui sont choisis. Et les concours sont assez difficiles, mais voilà, c'est des écoles qui permettent après d'avoir une formation très complète et de ressortir en faisant partie d'un certain réseau. Et après, il y a plein d'écoles privées qui peuvent varier énormément de prix et de qualité aussi. Il faut se renseigner. En gros, c'est à peu près une école, c'est à peu près 3 ans de formation.
Après le bac.
Après le bac. Mais on peut faire plusieurs écoles et on peut faire aussi tout au long de sa vie de comédien, comédienne. On peut faire des stages aussi et être tout le temps en apprentissage finalement. On peut travailler pendant des années avec une compagnie et puis après avoir envie de faire un théâtre plus physique par exemple et se mettre à faire des stages ou une formation de théâtre physique ou de danse par exemple. On peut tout d'un coup se mettre à travailler le chant. Enfin je veux dire tout au long de sa carrière on peut se former.
D'ailleurs, si on prend ta question par rapport au doublage, hein, puisque tu en parles aussi au départ, ce sont des formations qu'on fait après la formation de base du comédien-acteur. Hein, ce sont des stages. Moi, par exemple, j'ai fait un stage de doublage sur 15 jours, tu vois, dans un studio d'enregistrement spécialisé. Et voilà, c'est des billes qu'on acquiert au cours de notre carrière en fonction de nos envies, si on a envie de s'orienter ou pas vers ces formes-là.
Est-ce aussi difficile d'en vivre qu'on le dit ?
Difficile, qu'est-ce que tu entends par difficile ? On se fait l'image d'un comédien qui ne mange pas les soirs, qui ne peut pas payer son loyer. Après, quand tu arrives à être intermittent, que tu as le statut, alors ça, il faudra creuser un peu la question. Tu vis, hein, tu gagnes entre un SMIC et un peu plus qu'un SMIC, donc tu t'en vis pas mal. Ce qui est difficile, c'est de trouver du travail, de devenir intermittent et de garder son réseau et d'arriver à tourner suffisamment pour avoir ce statut. Mais une fois que tu travailles, non, c'est pas, on ne vit pas dans des tentes, dans un parc.
Sur votre site internet, vous dites que Accompagnée par Mont et Merveille est un projet artistique et un projet citoyen. Pouvez-vous nous expliquer quelle est votre démarche citoyenne ?
Oui, tout à fait. L'idée de la compagnie, c'est d'aller vers le public, d'aller là où il n'y a pas accès au théâtre. Le milieu rural, certains établissements scolaires qui vont être éloignés des théâtres conventionnés. Donc il y a vraiment l'idée d'emmener le théâtre et pas de simplement attendre que le public vienne à nous. Et sachant que l'idée aussi, c'est de partager les grandes œuvres classiques, c'est permettre à chacun d'avoir une culture de base. Moi, je pars du principe que c'est difficile d'aborder l'idée d'un théâtre contemporain ou d'un théâtre de l'absurde, ou de toute forme théâtrale, si on n'a pas les repères, les socles communs. Et en plus, on est dans une société qui se forge sur sa culture, et le théâtre fait partie de notre culture, et avoir des outils pour le comprendre, pouvoir le rencontrer, eh bien c'est aussi pouvoir être un citoyen plus accompli.
Est-ce justement en vue de ce projet citoyen que vous avez choisi de jouer Antigone ? Pourquoi cette pièce vous intéresse-t-elle particulièrement ?
Antigone, c'est celle qui dit non. C'est celle qui refuse l'ignominie. Celle qui refuse le meurtre pour une raison politique. Et qui, à part les politiques, les États et les nations, mais sinon nous, chacun, la personne, qui parmi nous a envie de voir un monde où on s'entretue ? On se sent tous plus proches de Jean Moulin, du général de Gaulle, que de Charles Maurras ou du maréchal Pétain. Fondamentalement, c'est une question humaniste. Et après, Antigone, elle est elle est universelle, pour moi elle est atemporelle, elle représente ceux qui à travers les temps s'opposent à la barbarie, s'opposent aux autocraties, aux dictateurs, s'opposent à l'horreur.
Comment avez-vous réparti les rôles? Est-ce en fonction des caractères de chacun?
La pièce, elle a été créée à la base avec une autre distribution. Il y avait seulement Olivier qui jouait déjà Créon depuis le début, quoi. Moi, par exemple, j'ai intégré la compagnie pour une reprise de rôle en octobre dernier. Et la première d'Antigone avec moi, c'était le 19 janvier, je crois. Donc c'est très récent. Valentine, ça fait 3-4 ans.
Bah, après, je pense que quand même... Olivier, tu choisis les comédiennes qui vont avec le rôle. Voilà.
Complètement, oui.
Ça a quand même un lien, il ne les choisit pas n'importe comment.
En fait, j'ai vu jouer Sarah, par exemple, et ce qu'elle est, son personnage, sa voix, ce qu'elle défend. Voilà, j'ai vu une Antigone possible. Donc oui, les rôles sont distribués en fonction de ce que toi, metteur en scène, tu ressens, tu perçois d'un comédien. Des fois, on peut se tromper, mais là, c'est pas le cas.
Antigone est une jeune fille qui se rebelle contre les décisions de son oncle Créon. C'est une jeune fille forte. Pour vous, est-ce un modèle important pour les jeunes filles d'aujourd'hui?
Oui, je crois. Oui. C'est aussi une toute jeune fille très courageuse, quoi, qui vient pour être fidèle à ses valeurs, qui vient défier le plus haut représentant du pouvoir. Moi, je suis très touchée par ce courage que je trouve assez fascinant d'une toute jeune fille comme ça qui vient prendre la parole et se battre pour ses valeurs jusqu'à mourir.
Pourquoi avoir repris cette version et pas l'original, la version de Sophocle ?
Sophocle, au départ, oppose les dieux aux humains. Ça veut dire que, en fait, Créon prend ses ordres des dieux. Et moi, il me semble que au XXe siècle, en 1905, il y a eu la séparation de l'Église et de l'État, et que aujourd'hui, on est dans un rapport au politique et non pas au théologique. Donc, socialement, il me semble plus intéressant, à mes yeux, en tout cas, d'aborder cette vision politique d'Antigone plutôt que de le comparer à des dieux ou des religions ou autre chose. En plus, ce sont des sujets mélasses.
Avez-vous adapté le texte d'Anouilh ou avez-vous repris le texte original mot pour mot?
On l'a adapté.
C'est-à-dire qu'il y a eu des coupes à l'intérieur de l'histoire, mais les dialogues et les scènes qui sont là n'ont pas été modifiées. C'est le texte d'Anouilh. Par contre, il y a eu des coupes. Il y a des coupes qui ont été faites pour aller aussi, comme tu disais tout à l'heure, à l'essentiel de l'histoire. Et enlever un peu tout ce qui est autour.
On voulait rendre un côté universel et atemporel à la pièce, sortir du contexte de l'époque où elle a été écrite et reprise. Donc ça aurait pu très bien être une adaptation du texte de Sophocle, et où on aurait enlevé à ce moment-là les rapports aux dieux ou des choses comme ça. Si on prend l'idée d'un point de vue sur une pièce, on se rend compte, par exemple, et cette Antigone est un bel exemple, c'est-à-dire qu'en 1944, les Allemands ont autorisé la pièce parce qu'ils voyaient dans le discours de Créon un soutien à la politique du gouvernement de Vichy et donc au maréchal Pétain. Et alors que les résistants, eux, voyaient dans le personnage d'Antigone une égérie de leur combat. Donc cette pièce, elle est vraiment magique pour ça, c'est-à-dire que c'est la question de point de vue, de là où je me place, de mon préjugé, comment je la vois.
Pour finir, comment travaille-t-on sur la mise en scène d'une pièce aussi célèbre? Arrive-t-on à être original?
Faut pas chercher à l'être, hein. C'est pas le but du jeu. Alors c'est pas moi qui ai fait la mise en scène de ce spectacle-là, mais dans une mise en scène, tu as une vision... Et tu t'y accroches, mais ta vision, elle ne s'est pas construite dans le but d'être original. C'est parce que tu as envie de défendre quelque chose. Après, ça arrive parfois qu'on regarde des vidéos de spectacles existants pour se dire, essayons de ne pas faire la même chose. Si ça a déjà été fait, c'est un peu bête de reprendre exactement le même procédé sur des idées. Voilà. Mais sinon, c'est pas...
Non, moi, je n'ai jamais eu l'idée d'être original ou quoi que ce soit. Quand il y a un texte qui te parle, tu as des images qui naissent, tu as une vision à l'intérieur de toi qui se crée. En tout cas, moi, ça fonctionne comme ça. Et j'ai simplement envie de porter cette image, de la construire pour la mettre physiquement, l'inscrire dans le monde. Et effectivement, moi, ça m'arrive, je vais voir beaucoup d'autres spectacles. J'aime bien me nourrir de ce que font les copains, parce que c'est de la matière première. Bien souvent, on n'invente pas grand-chose. On le combine simplement d'une façon différente avec ce qu'on est, nous. Donc, l'originalité...
Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Je vous dis au revoir et bonne fin de journée.
Merci à toi.
Toi aussi.